Bonsoir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur Vibration.
Avez-vous déjà eu envie de déménager en changeant totalement de région? Une envie pas si facile quand on a une famille, des contraintes et pas forcément d'emploi à la clé. C'est là qu'intervient la plateforme d'échange Wix Job, qui veut dire We Exchange Job. L'idée, Marie qui travaille à Bordeaux pour échanger son travail avec
Olivier. Alors, elle te plaît ma nouvelle cuisine?
Du Made in France? Tu te mets bien?
T'as eu une prime?
Non, je sais. Tu l'as eu d'occasion.
Le Made in France pas comme les autres, c'est celui qu'on peut se payer. Et apparemment, certains ont du mal à y croire. Rendez-vous sur Socook.com pour le vérifier et estimer le prix de votre cuisine. Socook, des cuisinistes pas comme les autres.
Et je recherche à Lyon. Et du coup, là, c'est nous qui prenons le relais. Ça veut dire que ça va être, vous allez être en attente et puis la plateforme, elle va jouer et faire son rôle. On a créé un algorithme qui va identifier les profils qui correspondent à ce que vous recherchez en vue d'un échange. Si jamais, en fait, on trouve une relation d'échange qui vous convient, qui convient à vous autant qu'à l'autre salarié, et ça peut être une ou plusieurs relations d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez avoir plusieurs choix, c'est ce qu'on espère en tout cas, à ce moment-là, c'est là que l'entreprise va devoir rentrer en ligne de compte, en fait. C'est là qu'on va contacter, soit vous nous mandatez pour contacter votre entreprise, soit vous faites la démarche vous-même. Vous allez l'avoir et vous dites, ben voilà, moi je m'en vais, j'ai besoin de partir parce que pour raison personnelle, j'ai besoin de partir, mais je veux pas vous laisser dans la panade. Je sais que c'est compliqué de me remplacer, donc je me suis inscrit sur cette plateforme où on va vous proposer des profils qui correspondent à mon poste, au poste que j'occupe. Et si ça vous intéresse, si vous souhaitez ouvrir le poste, parce qu'en fait l'entreprise peut très bien dire, ben non, moi le poste, je vais le fermer, ou alors je sais déjà qui je vais y mettre. Et si elle accepte, à ce moment-là, on va créer une vraie relation d'échange. Les parties rentrent toutes en ligne de compte. Et puis, elles vont recevoir les CV des personnes que vous avez rencontrées, avec lesquelles vous vous êtes mis en relation. Et puis, c'est là qu'elles vont les faire passer leur propre processus de recrutement classique. Donc, ça veut dire que tout le monde a la main. Vous pouvez dire « ça m'intéresse pas, finalement, j'y vais pas ». L'anonymat n'est levé que quand vous l'avez décidé, c'est-à-dire quand vous êtes prêt à aller plus loin. Tant que vous n'êtes pas prêt à aller plus loin, il ne se passe rien. De toute façon, c'est totalement gratuit pour le salarié. C'est anonyme jusqu'à ce que, effectivement, les entreprises rentrent en ligne de compte. Ça, c'est normal. Parce qu'il faut bien un moment ou un autre que les CV circulent. Sinon, il n'y a pas d'échange.
Compléter. Vraiment, au début, c'est complètement anonyme pour le salarié. Hein, quand il remplit sa fiche de poste, sa fiche de recherche, on a fait en sorte qu'aucune information ne puisse être transmise.
Même pour nous, d'ailleurs.
Hein. Même vis-à-vis de nous. Voilà. Donc on a vraiment voulu que le salarié se sente complètement libre et c'est anonyme et c'est gratuit pour lui, juste comme dit Aïda, au moment où à ce moment-là où c'est le salarié qui décide de lever son anonymat à un moment donné. Donc voilà, c'est toujours lui qui a la main sur ça.
Et pour l'entreprise, ça n'est payant, donc c'est une commission qu'elle ne verse, mais qu'elle ne verse que si ça fonctionne, si elle recrute pas. Donc il y a vraiment pas de frein à ce niveau-là, ni pour les uns ni pour les autres.
En fait, vous êtes un peu comme un cabinet de recrutement qui aiderait les particuliers à échanger de travail et qui proposerait des profils aux entreprises.
C'est un peu ça, effectivement. On ne fait pas vraiment le même travail que le cabinet de recrutement. C'est pour ça aussi qu'on ne voulait pas être sur des montants faramineux. Notre objectif, c'est vraiment d'être ouvert à tout le monde, les petites, les moyennes, les grandes entreprises. On voulait à un moment que ni les problématiques d'anonymat, ni les problématiques de coûts ne soit un frein pour qui que ce soit. On est vraiment dans une notion un peu naïve peut-être, mais de changement de société sur le regard, sur la mobilité et le départ des salariés.
Et elle coûte combien exactement cette commission du coup?
Elle est, alors pour les moyennes, les grandes, elle est de 2 000 euros. Sauf s'ils décident de s'abonner à la plateforme où là, ils ont un abattement de 30%. Et puis pour les TPE, ce sera un tarif qu'on n'a pas encore discuté, mais ce sera un tarif inférieur à ça.
Et alors, j'ai cru comprendre que même si la plateforme n'est pas bien vieille, je crois qu'elle a 1 ou 2 ans, par contre, vous, Aïda et Marion, vous vous connaissez depuis très très longtemps.
Oui.
Oui, alors ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on se connaît très bien. En fait, l'idée, elle m'est venue un peu par hasard, hein, sur le quai d'un RER, que j'habite dans une banlieue parisienne et je travaillais à l'autre bout de Paris, dans une autre banlieue, et dans le domaine de la comptabilité. Voilà. Et donc, c'est sur le quai du RER, tout simplement, où je vois les RER qui passent devant moi parce qu'on ne peut pas monter dedans, ils sont blindés. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde dans l'autre sens? Je me suis dit, c'est pas possible, il y a bien une personne qui fait le même métier que moi et finalement qui fait le trajet inverse. Et je me suis dit, mais si j'étais au courant que cette personne existait, si elle était au courant que j'existais, finalement, ce serait tellement plus simple si on pouvait échanger nos jobs. et on n'aurait plus à subir en fait ces trajets qui sont quand même particulièrement pénibles. Après, c'est vrai qu'on a eu aussi, donc bon, ça c'est la première idée hein, qui a germé dans l'esprit. On en a discuté pas mal avec Aïda à cette époque-là. Après, on a évolué dans notre carrière professionnelle, on a été manager et c'est là qu'on a vécu aussi de l'autre côté, hein, le côté gestion d'une équipe, les départs et en fait. Voilà, pour nous, un départ non anticipé, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, les départs sont pas anticipés, ils sont un peu, instant T, ils sont subis exactement. Un départ non anticipé, ça génère du stress dans les équipes, une surcharge de travail, du temps de recrutement, des coûts aussi pour les entreprises. Et on s'est dit, mais en fait, on peut trouver une façon pour que l'entreprise puisse quelque part anticiper ses départs. Ça lui permet aussi de renforcer, ça qui est important, hein, sa démarche RSE, avec un levier pour réduire son impact environnemental, notamment sur les temps de trajet hein, de ses collaborateurs, mais également sur les risques psychosociaux, parce qu'une personne qui est pas bien dans son poste et qui a envie de bouger, mais qui sait pas trop comment s'y prendre, c'est compliqué. Ça lui permet de valoriser sa marque employeur, et notamment pour, je pense beaucoup aux PME qui ont des difficultés hein, à recruter en France, et souvent ça pénalise leur croissance. Donc là, ce qui est intéressant hein, pour elles, c'est de dire, même vis-à-vis de l'extérieur, de dire, nous, on est ouverts à la mobilité. Donc, on va vous offrir des perspectives de carrière grâce à WeJob, à travers, en fait, cet engagement qu'on montre en nous abonnant, par exemple, à WeJob, avec une charte qui est respectée par les deux parties, d'ailleurs, les salariés et les entreprises. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est un peu la genèse, en fait, de WeJob. Et puis, bien sûr, c'est une histoire d'amitié avec Aïda. Hein, ça fait presque 2 ans maintenant hein, qu'on travaille sur le concept, qu'on développe l'outil. Donc c'est vrai que c'est récent la mise en ligne, mais c'est beaucoup beaucoup de travail en amont.
Mais en fait, ce qu'on a voulu aussi créer au niveau de WeJob, c'est un espace pour que les entreprises puissent se constituer des réseaux entre elles. Toutes les entreprises abonnées, elles peuvent décider de rentrer en relation avec une ou plusieurs entreprises abonnées. Et en fait, on a créé un espace pour des petites annonces, pour favoriser l'entraide entre entreprises. On s'est dit que notamment, enfin à l'époque, on parlait beaucoup de PME, mais finalement, il y a un peu toutes les entreprises, mais tout ce qui est PME, TPE, elles ont souvent aussi des difficultés dans leur activité au quotidien. Et si elles pouvaient rentrer en relation de manière aisée avec d'autres, elles pourraient, je sais pas, partager des frais de formation ou sous-louer des salles ou, je sais pas, des besoins de compétences spécifiques passent exactement, pas nécessairement uniquement sur les aspects RH. Et donc ça, c'est un espace vraiment spécifique aussi sur WeJob et qui est accessible pour le coup là par abonnement.
Je vous rappelle le nom du site wixjob.com, ça s'écrit WeXJob.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you, ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now, woo. There's a tornado in my city. In the basement, that shit ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em, hey. Lay your cards down, 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 down. So pack your Lexus, throw your keys out. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo-hoo. dive bar we always thought was nice. Ooh, you run to the left, just with me in the middle, boy. I can read your mind. This ain't Texas.
La nuit sur Vibration. On passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et pour certains, c'est même devenu leur métier. À l'image de l'Orléanaise Clémence Allaire, influenceuse mode, beauté et lifestyle, qui compte aujourd'hui près de 120 000 abonnés sur Instagram. Bien loin du business juteux et très souvent indigeste développé par les stars de télé-réalité, Clémence, elle, noue des relations particulières avec les marques à la renommée parfois mondiale. Des marques qui ont choisi de faire appel à des créateurs de contenu pour assurer leur présence sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi et quel est leur intérêt et comment cela fonctionne-t-il ? Clémence Allaire a accepté de répondre à nos questions rencontres.
Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis orléanaise et je suis maman d'un petit garçon. J'ai lancé tout d'abord un blog, quand c'était la folie des blogs en 2010, donc ça fait un petit moment déjà. J'étais au lycée, j'adorais écrire, ma matière préférée c'était le français et j'adorais la mode, j'adorais la beauté et je me suis dit il faut que je trouve une plateforme pour écrire ce qui me fait kiffer quoi. Et du coup j'ai lancé mon blog et à partir de là je pouvais m'exprimer, je pouvais parler mode, beauté, lifestyle, etc. Et je me suis dit pour attraper les gens, j'ai décidé d'interviewer des célébrités. J'ai pas de formation de journaliste à ce moment-là, je ne suis personne, etc. Mais le format blog intéresse vachement les gens, et donc on me dit oui. Donc j'ai fait des super interviews, Lou Doyon au Théâtre d'Orléans, incroyable,
okay.
vraie interview de grande. David Beckham, alors là c'était waouh,
ah ouais.
Ouais, c'était vraiment cool, et des personnalités de la mode, etc. Et ensuite Instagram est arrivé, et à partir de là, bah ma communauté du blog m'a suivi sur Insta et c'est grâce à ça que j'ai pu du coup construire une communauté et grandir via ce réseau social.
C'était le blog fonctionnait déjà bien avant ?
Ouais, super bien. Franchement, c'était trop cool. Les gens étaient hyper curieux, attendaient mes articles, c'était vraiment sympa. Et toute la folie Facebook, Twitter et surtout Instagram a complètement changé la donne et aussi pour énormément de médias comme je pense à la presse, etc. Et les réseaux sociaux ont pris une grosse place et on a vite compris que c'était un vrai moyen de communication à travers des photos, etc. Donc voilà, ça a commencé à suffire aux gens en fait, ce type de format, donc il faut évoluer aussi avec son temps, même si la passion d'écrire était encore là. Et voilà.
Pour comprendre le fonctionnement d'Instagram aujourd'hui, comment justement fonctionne ton travail ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et surtout, comment ça marche ?
Instagram, donc déjà on est sur un réseau social, tout le monde a accès à Instagram, mais on peut vivre de cette plateforme. Donc moi, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre en avant, mettre en lumière des marques, des produits, de la beauté, de la mode, des expériences culinaires, des expériences hôtelières via mes propres photos. Donc voilà, il y a un vrai travail du coup de
création.
De création, c'est ça, voilà. Prendre des photos, bah ça prend aussi. On prend pas des photos n'importe comment. Donc on s'équipe. Il y a un vrai travail même avec la lumière, etc. Vraiment, le but, c'est de rendre l'objet encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Donc, il y a pas mal de boulot derrière. Il y a une vraie, un vrai travail en amont avec les marques. Donc, on reçoit des briefs. Ils nous disent voilà ce qu'ils veulent exactement. Et nous, on doit reproduire le truc de manière parfaite, en fait. Et c'est très challengeant au quotidien.
C'est un fonctionnement d'agence de communication.
Clairement. J'ai un brief, la marque me contacte, j'ai un brief à respecter avec des deadlines. Donc voilà, je dois envoyer ma photo, ma légende ou ma vidéo, parce que maintenant il y a le format vidéo qui marche énormément bien, avant telle date. Et faut que tout soit nickel pour que je puisse poster.
Comment ça se passe justement le lien avec les marques? Est-ce qu'elles te contactent? Tu les contactes? Comment ça fonctionne?
Alors, il y a certains créateurs de contenu qui vont aller au culot contacter des marques parce que ils ont envie de travailler avec telle marque. Ils se disent moi j'ai un super compte Instagram, donc why not? Et il y a les personnes, moi je fais plus partie de ces personnes-là, qui attendent que les marques viennent parce que j'ai toujours peur, j'ai pas envie de déranger ou quoi, et du coup je préfère qu'on vienne vers moi parce que voilà, la marque estime que je corresponds à ce qu'elle veut, et elles viennent vers moi voilà en me disant voilà, on aime bien ton profil, on aime bien ton univers, voilà ce qu'on sort comme produit et on pense que ça correspond complètement à ce que tu es. Et du coup après je regarde, j'accepte ou pas, parce que des fois on dit non parce que ça nous correspond pas forcément. Il faut savoir dire non parce qu'après on est très très vite sous l'eau, et voilà.
C'est justement ça, pour qu'on se rende compte, ça peut être combien de propositions par jour ou par semaine ou par mois, je sais pas?
Alors c'est complètement différent tous les jours.
Mes journées, hors Noël, parce que j'imagine Noël, c'est la folie.
Hors Black Friday, hors Noël, tous ces trucs-là, oui. Clairement, en moyenne, je dirais, on peut aller jusqu'à 2 propositions par jour.
Ah oui, d'accord. Ok. Toutes sérieuses?
Il y en a qui sont moins sérieuses. Il y a des marques, c'est clairement du dropshipping, et ça, on n'y va pas du tout, parce que ça peut être même dangereux pour le consommateur, et puis même pour son image, c'est vraiment pas bon. Mais oui, clairement, aujourd'hui, les marques ont très très bien compris ce business qui est juste incroyable, et préfèrent limite faire de l'influence que faire de la télé.
Est-ce que aujourd'hui, comparé à il y a quelques années, ça marche encore plus?
Oui.
Ou est-ce qu'on sent qu'il y a un ralentissement? Parce que là, ça fait quelques années maintenant qu'on parle du métier de l'influence. Est-ce que vous êtes toujours autant happé par les marques, les choses comme ça?
Moi, je trouve que oui.
Ouais, okay.
Ouais, franchement, je trouve que oui. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, les marques, elles se disent que Instagram, c'est une mine d'or pour elles, parce qu'on va toucher le cœur de cible tout de suite, en fait. Une marque de sport va tout de suite aller vers un influenceur sportif et va tout de suite trouver la personne qui va parler de ses produits. Donc c'est tout bénef, clairement. Après, voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui arrivent, enfin, qui sont déjà là, bien implantés, comme TikTok. Et là, il y a une grosse, grosse comparaison avec Insta. Mais on est sur autre chose, on est sur une autre génération. Donc, pareil, il faut vivre avec son temps. Mais franchement, je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail sur la partie Insta.
Sans chiffrer, est-ce que tu sais si c'est moins cher, entre guillemets, de faire appel à des influenceurs que de faire appel à une grande chaîne de télé, par exemple, pour faire de la pub?
Ouais. Okay. Moi, j'ai travaillé dans le marketing d'influence avant d'être 100% sur Insta. Du coup, j'ai pu assister au backstage de tout ça, de voir quel budget les marques pouvaient mettre pour une campagne avec X influenceurs. On est clairement en dessous d'un spot publicitaire.
D'accord.
C'est après, voilà, il y a des influenceurs qui sont très 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 puissants, où ça chiffre forcément beaucoup. Parce que forcément, ils font extrêmement vendre. Donc là, forcément, on peut être un peu choqué par rapport au prix. Et voilà. Mais le prix d'une pub juste avant le 20h, c'est beaucoup plus cher.
Quel est le point négatif dans ce travail? L'exposition sur les réseaux?
Oui. Il y a le côté surexposition de sa vie. Après, clairement, il faut le dire. Moi, je parle pour moi, je montre 5% de ma vie. Enfin, voilà. Entre Instagram, c'est pas la vraie vie, et je suis trop contente de pouvoir le dire à la radio. Instagram n'est pas la vraie vie. Il faut faire déculpabiliser les gens qui se comparent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est pas la vraie vie du tout. Et les points négatifs, c'est ça. C'est quand on fait ce travail, on va avoir toujours cette pression de l'image. Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que mes photos vont être mieux que celles de ma copine qui est sur Insta aussi? Oh, elle, ça marche peut-être un peu mieux. En fait, on est toujours dans la comparaison et ça peut faire mal. Mais après, voilà, faut être bien entouré et se raisonner. Moi, c'est pour ça. Moi, j'ai mon mari qui est là, j'ai mon agent, j'ai des gens qui me disent tout le temps, arrête un peu. Des fois, tu te montes la tête pour rien. rien. Et voilà, et après, autre point négatif dans ce métier, c'est que bah, le métier d'influenceur, entre guillemets, c'est perçu comme quelque chose de facile. C'est pas, pas forcément pris au sérieux, mais franchement, derrière cette image, il y a tellement de boulot, il y a tellement de pression aussi qu'on s'inflige nous. Donc, voilà.
S'il y avait un conseil, c'est pas un conseil, mais si en gros, si tu devais faire passer un message par rapport à tout ça, ce serait lequel?
Je l'ai dit juste avant, je crois, mais Instagram n'est pas la vraie vie, vraiment. N'importe quel réseau social d'ailleurs, ce que vous voyez, voilà, c'est une toute petite partie de la vie des gens et c'est surtout ce que les gens veulent montrer. Et après, vous pouvez bien sûr suivre des gens qui vous inspirent et qui vous donnent envie aussi de réaliser des choses, de voyager, de faire plein de choses. Mais ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça peut être dévastateur, clairement. Moi, je l'ai vu en travaillant dans le marketing d'influence. Je prenais des stagiaires de 3e. S'il n'y avait pas plus de 200 likes sous la photo, j'étais une mauvaise personne et ça m'a brisé le cœur. Je me dis, mais on en est là, quoi. Donc, c'est trop cool, les réseaux, ça nous permet, voilà, de rêver un peu, de s'échapper, de rire parfois, parce qu'il y en a qui sont très forts là-dessus, d'apprendre aussi plein de choses. Il y a des gens qui sont trop bien calés, il y a des infographies trop cool sur les réseaux sociaux et tout, mais ne pas se monter la tête non plus, et voilà. Tout simplement.
Une dernière question à destination peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire quoi plus tard, ils veulent devenir influenceurs. Est-ce que c'est moi c'est un sentiment personnel, c'est que j'ai l'impression que toutes celles qui ont explosé justement dans ce milieu-là, qui arrivent à en vivre, elles c'était pas volontaire au départ.
Ouais.
Et est-ce que aujourd'hui on peut réellement décider plus tard je serai influenceur?
Je crois pas. Franchement, je crois pas. Je pense que si quelqu'un a envie de faire ce métier, bah, il peut se donner les moyens à fond. Mais je peux pas dire à 100% qu'il va réussir. En fait, je pense que il y a aussi une part de chance aussi, je le pense aussi, parce que il suffit de poster une vidéo et d'un seul coup d'avoir le lendemain matin 1 million de vues et là, waouh, tout commence. Enfin, il y a des études, il y a des formations maintenant pour essayer de faire au mieux, d'avoir un beau feed Insta, de pouvoir faire plein de trucs trop cool. Mais je pense que tout le monde ne peut pas faire ça et voilà, il y a une partie de chance quand même, faut le dire. Voilà, après si la personne a vraiment envie de le faire, elle peut se donner les moyens, faire de jolies rencontres, faire des stages aussi dans le marketing d'influence, rencontrer des gens. Mais voilà, c'est quand même très fermé, mine de rien. Can I have your attention,
please? Hey, this is Taylor Swift. Salut, c'est Julien Doré sur Vibration.
Salut, c'est Amir. Just a
relief, but... Salut, c'est Slimane sur Vibration.
Avec Vibration et vos artistes préférés, vibrez avec nous.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir, et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. Nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder. Pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde, peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était.
Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas.
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleures interviews. Comme celle-ci.
Les jeunes seraient-ils réticents à passer le permis de conduire? C'est du moins ce que laisse penser l'étude de référence Parcoto menée par l'Institut Kantar. Les chiffres annoncent que 69% des 18-24 ans ont le permis en 2022 contre 77% en 2002, soit une baisse de 8% en 20 ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse. Un coût trop élevé, une prise de conscience environnementale ou encore l'objet voiture qui ne fait plus autant rêver qu'avant. Alors, on est allé poser la question à un spécialiste du permis de conduire.
Bonjour, Bruno Garancher, je suis président de l'association École de conduite française.
Alors Bruno, vous me disiez qu'il fallait être prudent avec les chiffres et surtout qu'il fallait les nuancer selon la zone géographique où se trouvent en fait les conducteurs.
Le recul de l'âge du permis de conduire est très variable suivant les zones géographiques puisque globalement, si c'est assez vrai dans les zones urbaines où des moyens alternatifs de transport peuvent être utilisés, transport en commun, utilisation du vélo, etc. et des mobilités douces. C'est beaucoup moins vrai dans les zones rurales et dans les villes moyennes, puisque là, la plupart du temps, les jeunes n'ont d'autres moyens que l'accès à l'automobile pour arriver à gérer leurs déplacements du quotidien. Ce qui veut dire que quand on regarde, nous, effectivement, la répartition des âges de passage du permis de conduire, on s'aperçoit que les agences qui sont situées dans ces villes moyennes et dans ces zones rurales restent sur des âges qui sont plus proches de 18 ans, voire qui ont tendance à se rajeunir. Puisque si effectivement on avait vu jusqu'en 2019 apparaître un réel vieillissement, qui était probablement dû aussi au fait que pour les familles, la charge du financement du permis de conduire devenait de plus en plus difficile à supporter. Les différentes mesures qui ont été prises de façon à favoriser le financement par les familles, que ce soit le permis à 1 euro, la prise en charge partielle de la formation par les centres de formation d'apprentis pour les jeunes qui sont apprentis, l'utilisation du CPF pour les gens qui ont pu travailler comme apprentis par exemple à partir de 16-17 ans ou simplement qui ont travaillé en job d'été ou en job d'accompagnement de leurs études. On voit nettement un rajeunissement, et je le répète, hein, surtout sensible dans les zones rurales et villes moyennes.
Alors il y a quand même quelque chose que je note à titre personnel, c'est qu'on remarque que chez les jeunes lycéens, ce n'est plus tellement un objectif comme il pouvait l'être il y a quelques années. C'est-à-dire que avant, c'était comme le bac, c'est-à-dire il fallait passer le bac et puis le permis. Là, on a l'impression qu'il y a un peu un désintéressement, qu'il y a des choses qui font que, bah voilà, le permis ne devient plus réellement obligatoire dans l'état d'esprit des jeunes.
Oui, vous avez raison, mais en fait, c'est pas tellement lié à l'utilisation du véhicule, dans le sens où globalement, les jeunes conviennent sans aucun problème qu'ils ne peuvent pas se passer de l'auto, c'est plutôt lié aux représentations qu'ils ont vis-à-vis de l'automobile. Les générations un peu plus anciennes, entre guillemets, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin, passer aussi le permis de conduire par rapport à l'aspect social de l'automobile. C'est-à-dire que le permis de conduire, vous le disiez assez bien, faisait partie des rites de passage vers la vie adulte et pouvait aussi correspondre à des représentations individuelles qui faisaient que avoir une automobile, entre guillemets, sa place vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, ces représentations, effectivement, sont en très très net recul, ce qui aussi a des effets plutôt positifs, parce que ça veut dire que si on met moins d'affect dans l'automobile, on risque moins de l'utiliser comme objet de représentation et de pouvoir, entre guillemets, ou de frime. Ça génère aussi des comportements qui sont différents sur la route. Mais il n'empêche, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auto reste, de toute façon, y compris pour ces jeunes-là, un objet d'obligation. C'est-à-dire que faut bien passer par là, certainement, pour une partie du moins. Sachant qu'il y a encore une partie de la population pour qui accéder à l'automobile est une vraie valorisation. Il y a encore une partie de la population pour qui passer le permis de conduire est accès accéder pratiquement au seul diplôme qu'ils auront dans leur vie et pour lesquels c'est à représentation forte.
Il y a aussi une évolution dans le choix des formations, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes vont aussi se tourner vers les boîtes automatiques, donc plutôt les voitures, on va dire, électriques, hybrides, et puis même, il y en a qui vont littéralement vers les voitures sans permis, par exemple la dernière, là, de Citroën qui est sortie. Ça, c'est un vrai boom qu'on connaît chez les jeunes.
Comme les représentations vis-à-vis de l'auto sont moins fortes, bah effectivement, on va aller vers des véhicules qui sont moins porteurs de symboles, plus pratiques, plus aisés à conduire et qui correspondent plus aux mobilités dont on a réellement besoin. Donc, vous citiez l'exemple de l'AMI, on pourrait citer globalement l'exemple de l'ensemble des quadricycles, puisqu'on voit que ce marché du quadricycle léger, qu'on a tendance à appeler voiturette, est en plein boom. Effectivement, aussi bien du côté de l'AMI, qui elle a en plus une caractéristique particulière, c'est que c'est un véhicule électrique, donc elle rentre dans le schéma global de ces mobilités douces et moins polluantes, mais on voit aussi les immatriculations assez considérablement augmentées du côté des constructeurs encore thermiques, je pense à LG et Aixam par exemple, qui sont les deux constructeurs français importants. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet à la famille de donner accès à un véhicule 4 roues plus protecteur entre guillemets que le cyclomoteur dès 14 ans. Et puis effectivement, dans cette espèce de continuité où on a commencé déjà à travailler avec un véhicule qui avait pas de boîte de vitesse, qui avait pas d'embrayage, ça emmène les jeunes à s'intéresser de plus en plus à la boîte automatique, d'autant plus que les véhicules auxquels vous faisiez référence, c'est-à-dire les électriques et les hybrides, sont tous équipés de boîte automatique pour un certain nombre de raisons. Donc oui, on a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui hésitent très clairement quand ils arrivent à 18 ans pour passer le permis de conduire entre aller directement sur de l'automatique ou passer par la boîte manuelle, sachant quand même que la boîte automatique les intéresse pour des raisons de facilité et pour des raisons de coût, puisque la durée de la formation sur une boîte auto est amputée pratiquement d'un tiers de sa durée, donc derrière génère des économies de coût sur le permis de conduire.
Et est-ce qu'au-delà du contexte économique, il y a aussi le contexte écologique? C'est-à-dire que, ben voilà, moi j'ai pris conscience que j'avais envie de moins polluer en roulant avec ma voiture, donc je vais me tourner vers ce type de modèle.
Il y a ça, mais les jeunes se projettent aussi dans l'utilisation de leur véhicule en termes de travail, et ils savent pertinemment que le véhicule qu'ils auront éventuellement à conduire en termes de travail, je pense aux apprentis par exemple, hein, apprentis du bâtiment, les apprentis qui savent que derrière leur métier sera conditionné par le déplacement, ils vont avoir tendance à malgré tout choisir la boîte manuelle parce qu'ils savent que dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, on n'aura pas forcément de véhicule à boîte automatique. Donc il y a un système d'attirance-répulsion. Alors souvent, ce qu'ils font, et sous notre conseil, c'est qu'ils commencent par la boîte automatique, sachant pertinemment que après 3 mois de permis de conduire, ils peuvent basculer sans avoir d'examen à repasser sur une boîte manuelle, simplement en passant par la formation.
Est-ce que vous auriez quelques chiffres pour illustrer un petit peu, alors déjà, la différence entre passer son permis dans un contexte urbain et dans un contexte rural, mais aussi passer son permis quand on habite Paris, la capitale, et puis quand on habite la province ou même d'une autre grande métropole de France?
Pour ce qui concerne les agences du groupe ECF, l'âge moyen du permis de conduire sur Paris Grande Couronne se situe aujourd'hui à 23 ans et 7 mois. Pour ce qui concerne une ville comme Bordeaux, on est un petit peu en dessous puisqu'on se situe à 22 ans et 2 mois. Et pour le centre-val de Loire, c'est-à-dire des zones comme Tours, comme Blois, on est sur un âge qui, lui, est descendu à 18 ans et 1 mois. Alors, sachant que dans le 18 ans et 1 mois, faut aussi prendre en compte le fait qu'en province, le nombre de jeunes commençant à apprendre à conduire avant 18 ans est nettement plus important, puisque c'est dans ces zones-là que la conduite accompagnée est la plus développée. La moyenne nationale, toujours dans les entreprises du groupe ECF, se situe aujourd'hui à 18 ans et 9 mois.
Donc finalement, on est plutôt sur des âges assez classiques, c'est vraiment sur la façon dont le permis de conduire est passé que les choses évoluent un petit peu.
Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, zone province, j'ai envie de dire, et Centre-Val de Loire, là-dessus, est complètement représentatif à mon avis. On est sur les zones où les jeunes passent le permis de conduire le plus tôt, à la fois parce que la conduite est accompagnée et la plus représentée. Donc on a des jeunes qui vont passer réellement les épreuves du permis de conduire à 18 ans et un jour, j'ai envie de dire presque, voire même certains le passent avant 18 ans, puisque la loi le tolère aujourd'hui avec le droit de conduite, le droit de conduire à 18. Et une région comme Centre-Val de Loire pour l'ECF, c'est plus de 32% des jeunes qui passent leur permis de conduire en conduite accompagnée. Dans les zones urbaines, d'abord parce que les parents souvent ont moins accès à un véhicule qui leur permet facilement de faire de la conduite accompagnée pour différentes raisons. Là, effectivement, les jeunes passent de leur propre autorité le permis de conduire. C'est vrai à Bordeaux, un peu moins qu'en région parisienne. parisienne. Et là, on a des âges qui sont un petit peu plus élevés. C'est-à-dire que les jeunes vont commencer à penser au permis de conduire à partir du moment où ils vont penser insertion dans l'entreprise.
Donc pour vous, tant qu'on n'aura pas développé plus les transports en commun, en fait, le permis de conduire et la voiture plus largement resteront le moyen de transport majeur chez les Français ?
Aujourd'hui, de toute façon, les moyens de déplacement autres que la voiture ne sont pas suffisants pour gérer la totalité des déplacements privés et professionnels. Donc ça amène effectivement aujourd'hui toujours les jeunes à s'intéresser au permis de conduire et à la voiture. Ce qui va évoluer, s'il y a une évolution à venir à terme, c'est pas le fait d'avoir son permis de conduire et de conduire, c'est le fait de pas avoir nécessairement une voiture en propriété pour l'ensemble de nos usages. Si on se projette, et quand on travaille nous avec Renault qui est notre partenaire, quand on se projette sur l'avenir, c'est plutôt le fait que la voiture risque d'être un objet partagé, la voiture risque d'être un objet vers lequel on investit moins et financièrement et affectivement, mais ça reste encore aujourd'hui l'outil de déplacement le plus utilisé et le plus utilisable pour les déplacements du quotidien dès lors qu'ils ne sont pas couverts par les transports en commun.
Merci Bruno Garancher, président de l'ECF, pour cet éclairage sur les jeunes et le permis de conduire.
Voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte. No quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde. Desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Vous êtes au cœur de la nuit vibration. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Bonjour Eric Tolenado, Olivier Nakache. Alors vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma ?
Voilà, c'est, là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique et obsessionnelle. C'est vraiment, je pense qu'on on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit ça a déjà été fait. Bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas On veut pas aller sur les terres. Au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Voilà, par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée, Barbie, un truc comme ça. Finalement, ça a été fait, puis on va pas le faire. En plus, ça a pas marché.
Non, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout le truc. Ouais.
On va passer à autre chose.
Alors, après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
C'est la bombe atomique. évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein. Et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer. Et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer, à mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation, et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète, et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes, mais qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie, et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement ?
Tout à fait.
Ouais.
On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, voilà, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller rencontrer des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier. C'est tout un protocole et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'auditeurs qui vont le découvrir du coup avec le film. Alors quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. Pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en film. On a travaillé dans des mariages, on a fait le sens de la fête, on a travaillé dans les colonies de vacances, on a fait nos jours heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme...
Hors normes,
on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux et on a fait hors normes. Donc je pense que c'est des années sandwich de où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, par exemple, dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents. On imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage. Ça a dû être un défi pour certains endroits. Je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi. Ce film n'a été qu'une succession de défis à relever. Et c'est tant mieux parce que on aime aller dans des nouveaux territoires et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement ça nous manquait. Ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans à écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes. C'était fabuleux, il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. Mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est OK, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été simple?
C'est le bordel. Ah, pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop deux. On peut dire des choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
De grands pros. Donc, si vous voulez, ils savent aussi l'importance du l'enjeu d'une journée de tournage et de scène à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on n'omet pas avec eux la déconne. Et comme... il y a de la déconne et du coup c'est à nous de la canaliser, de la transformer et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur, est-ce qu'il comprend mieux vos attentes parfois? Est-ce qu'il a été force de proposition à certains moments?
Oh, il peut proposer. De temps en temps, on prend. De temps en temps, on prend pas. Mais oui, il est plutôt créatif. Et il y a quelques petits moments de brillance dans le film aussi qui sont des fulgurances qui lui sont arrivées ou alors qu'on a eu comme idée au dernier moment. En tout cas, il est très réactif. C'est un peu... comme un sportif, on lui envoie le ballon, il peut le renvoyer tout de suite. Mais ceci dit, Pio aussi. Il a l'air moins comme ça, mais il peut être très, très vif et très réactif aussi.
Alors, vous avez évoqué la comédie italienne tout à l'heure. Il y a un film de Dino Rizzi qui s'intitule Une vie difficile. En plus du titre, on y trouve plusieurs similitudes avec des prises de position un petit peu radicales dans le film, une histoire d'amour qui semble impossible. Vous sentez-vous proche de la comédie italienne avec du coup son mélange de cruauté humaine, la cruauté sociale et la tendresse? On mélange tout ça?
Oui, on se sent proche au point de se revendiquer d'influence de comédie italienne. Tout au long des films, on en a parlé, mais c'est peut-être le plus italien celui-ci puisque il prend... tout le monde et il met tout dans un sac et il met une sorte de dose de noirceur et de pessimisme qui se transforme avec la comédie en petits moments d'aération réguliers et il dénonce et il aborde des sujets complexes avec légèreté. C'est tout l'art des Italiens de cette époque. Et puis alors La vie difficile dont vous parlez a été le début de ce titre qui est arrivé corroboré par le petit montage que les gens découvriront au début du film qui explique aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui voudront le savoir, pourquoi nous avons choisi ce titre.
Alors, il y a une grosse attente lors de la sortie de vos films. Comment est-ce que vous la gérez, cette attente? Est-ce que vous êtes plutôt du genre stressé ou du genre à en profiter?
Les deux. En fait, on est stressé. Les deux, mon colonel. On est stressé, on est névrosé, on a peur, on doute. Mais en même temps, on veut aussi en profiter. C'est pour ça... on fait une grande tournée dans toute la France avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens et en même temps, ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah justement, vous parlez des doutes. Alors, quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois, vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
Oh, on se sent proche, en fait, c'est un peu bizarre, parce que on se sent proche de tous les personnages, parce que on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc, quand Noémie se met à dire... on est la avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir. Je me sens proche de ce qu'elle raconte parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050 et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars, je me dis si j'étais dans sa situation... J'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité quand on perd un parfum, un déodorant? Je me suis dit, si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture, c'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens, du coup, qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être, entre guillemets, moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet, sans essayer de les blesser, sans les blesser à aucun moment dans le film?
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé. La moquerie, c'est depuis l'école, les moqueurs, on leur pète la gueule. Mm-hmm. C'est pas de la moquerie. C'est ce que nous, on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence. C'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnette et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit, mais on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables, il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et à gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. J'ai pas l'impression et qu'on a la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il y avait plus de problèmes?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non, mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, 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 non. C'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre et. Mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants ou du pouvoir. Il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense que quand on hume bien, quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Jusqu'à l'ombre. Regarde-toi à l'autre pôle. Fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue. On a dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur. Seulement regarde comme on est seul. On a
on a parcouru le chemin, on a souffert en silence.
de la radio, chaque vendredi, Vibration vous ouvre ses portes.
Salut Alban,
c'est Théo. Alban et Théo vous accueillent dans l'équipe et vous donnent la parole.
Bonjour à tous.
Bonjour. Entre 9h et 10h, devenez le pote du vendredi et participez à l'émission Debout tout le monde sur Vibration.
Allez, debout tout le monde.
Pour participer à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur vibration.fr.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. Celebrate it. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you.
Sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés.